Bonsoir à toutes et à tous, c'est du gras à moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. La pensée complexe du président se prête mal au jeu des questions-réponses avec des journalistes. Cette petite phrase rapportée par le journal Le Monde aurait été prononcée par un membre de l'entourage d'Emmanuel Macron pour justifier l'annulation de la traditionnelle interview du 14 juillet. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été appréciée par des journalistes politiques qui sortent, c'est vrai, d'une année difficile et surtout interminable depuis la campagne des primaires jusqu'aux législatives. Et si encore tout s'était passé de façon tranquille, mais non, on est allé de surprise en surprise, d'affaire en affaire jusqu'au Big Bang final à l'Assemblée nationale qui a rendu obsolète est à la fois les grilles d'analyse et les carnets d'adresses des journalistes politiques. Mais surtout, pour la première fois, la profession a été la cible de tous les candidats à peu près, sifflés dans les meetings, rabroués sur les plateaux, ignorés pendant les débats. Aujourd'hui, la mise à l'écart des journalistes a franchi une nouvelle étape. L'Élysée ne cache pas sa volonté de choisir ceux qui pourront accompagner le président en fonction de la couleur qu'on veut donner à ses déplacements. Et de Jean-Luc Mélenchon au Front National, en passant par La République En Marche, les partis créent aussi leurs propres médias pour s'adresser directement aux citoyens. Ce qui nous amène à cette question, les journalistes sont-ils trop bêtes? On en parle jusqu'à 19h, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
Un petit mot tout particulier pour dire merci aux nombreux journalistes qui... Non ! S'il vous plaît !
Ma méthode est de penser que le premier média sur lequel je peux m'appuyer, ben c'est moi-même.
La présence de 50 journalistes, d'une dizaine de caméras, nuit un peu au dialogue direct et à l'échange que peut avoir le président de la République, qui était candidat, avec les Français.
Tout le monde doit être logé à la même enseigne et faire l'objet d'un traitement médiatique identique.
Les rédactions demandent toujours aux mêmes personnes de suivre toujours les mêmes candidats, dans l'espoir d'avoir la petite phrase, d'aller au fond des choses et d'être introduit.
Monsieur Revaud-Dallone, il faut travailler un petit peu.
Bah, j'essaye de travailler.
C'est vrai ?
À chaque fois, les journalistes, au lieu de s'intéresser au débat qu'on essaye de lancer, s'arrêtent aux affaires de forme, essayent de provoquer des querelles entre les gens. Il faut comprendre pourquoi. Parce que c'est ce qui demande le moins d'efforts intellectuels, le moins de travail, et ça vous permet de faire du bruit sans toucher jamais au fond.
Les Français n'ont plus aucune confiance dans les médias. Vous en êtes conscient ou pas ?
Vous aurez reconnu dans ce petit montage Marine Le Pen, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Charline Von Hennecker, notre collaboratrice de France Inter, voilà, et puis d'autres évidemment qui ont tous plus ou moins éreinté la fonction de journaliste dans ce petit son. Et ben, on va leur donner la parole aux journalistes. D'abord à vous, Frédéric Barrère, bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
Vous êtes le directeur de la rédaction de France Culture. En face de vous, Nathalie Saint-Cricq, bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
Vous êtes la responsable du service politique de France 2. Hélène Salvi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique à Mediapart et peut-être en juge de paix, ou en tout cas pour nous aider à prendre un peu de hauteur, un sociologue spécialiste du journalisme politique sous la Ve République, Nicolas Cassieff, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence titulaire à Sciences Po Lille. Je vous remercie à tous d'être ce soir autour de la table. Bon, la question était volontairement provocatrice, hein. Les journalistes sont-ils trop bêtes? En référence à cette phrase, la pensée complexe du président Macron se prête mal au jeu des questions-réponses. Cette phrase, elle vient à la fin d'une année, je le disais, tout de même, qui a modifié peut-être assez profondément la fonction, ou en tout cas le métier de journaliste politique. Nathalie Saint-Cricq, vous qui avez en plus animé ce débat d'entre-deux-tours qui a beaucoup fait parler, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir.
C'est un bien gros mot, animé.
Oui. Il y aura un avant et un après pour vous, 2017.
Je pense qu'il y a eu, effectivement, comme le disaient les différents politiques qu'on a pu écouter dans votre montage, qu'il y a eu une mode qui s'est déclenchée en cours de campagne, qui était tapé sur les journalistes en considérant qu'ils ne posent pas les questions qui intéressent les gens. C'était quelque chose d'un peu populiste et qui a été pas simplement réservé à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon, qu'on appelle traditionnellement des populistes, mais on a vu François Fillon s'y mettre et puis Emmanuel Macron de temps en temps. Donc effectivement, il y aura un avant, un après. Et puis alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment gère Emmanuel Macron cette relation aux médias, puisqu'il a souffert de voir François Hollande en user et en abuser, et qu'il a décidé de faire exactement le contraire en maîtrisant tout.
C'est l'effet d'Avellum, en quelque sorte.
On peut penser ça.
Les auteurs de un président ne devrait pas dire ça. Frédéric Barrère, vous qui dirigez aussi une rédaction, est-ce que vous avez le sentiment que les choses doivent changer, les pratiques doivent changer, les journalistes politiques ont conscience qu'il faut faire autrement?
Mais je crois bien, oui, qu'il va falloir changer. D'abord, cette campagne a été extrêmement longue. Elle est partie sur les chapeaux de roue, voilà, avec tout un tas de surprises. On a changé de président hein, dans les sondages, dans les avis, presque tous les mois. En tout cas, en août, c'en était un, c'était Juppé. En novembre, c'était Fillon. Et puis, à partir du 24 janvier, tout a changé. Enfin, il y a eu plein de surprises. Après, c'est vrai, vous avez raison, Nathalie, c'est devenu normal pendant cette campagne. On l'a entendu dans le son introductif. D'insulter les journalistes, de mal les traiter, parfois de leur cracher dessus ou de les gifler. Donc voilà.
Moi, pas du côté des candidats, là, c'était plutôt dans les meetings.
Dans les meetings, ouais, et notamment de François Fillon, voilà, hein, comme on l'a entendu. Donc voilà, ça, c'est très regrettable. Après, je voudrais quand même rappeler une phrase qui est quand même extrêmement célèbre, mais qui prend du sens malgré tout aujourd'hui. Alors, c'est vrai que notre métier, ben, on n'est pas là pour faire plaisir, pas plus que de faire du tort, hein. C'est Albert Londres. On est là pour porter la plume dans la plaie. C'est très célèbre. Ben, c'est vrai, un journaliste, c'est libre. Un journaliste, ça enquête. Un journaliste, ça contredit. Ils sont peut-être pas habitués, plus habitués, mais c'est ça.
Mais même si dans les critiques, Frédéric Barrère, il y avait aussi l'idée, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon, que les journalistes sont pas si libres et qu'ils sont notamment à la solde d'un certain nombre d'intérêts. Marine Le Pen aussi a parlé beaucoup de Monsieur Drahi, qui était sa tête de Turc. Mais j'aimerais finir ce tour de table avec un dernier témoignage, en définitive celui d'Hélène Salvi, puisque vous avez suivi aussi cette campagne pour Mediapart. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que quelque chose s'est passé au cours de cette campagne qui oblige les journalistes politiques à penser peut-être un peu différemment leur métier?
Moi, déjà, je suis très à l'aise vis-à-vis des critiques qui peuvent être émises par les responsables politiques, parce que de fait, Mediapart a un petit peu cette chance-là d'être complètement indépendant de tout intérêt. Par ailleurs, effectivement, moi, j'ai suivi la campagne de Fillon. On en a fait pas mal les frais, et quand vous disiez les candidats n'ont pas interpellé les journalistes, c'est pas vrai. Moi, je me souviens pertinemment.
Non, je sais qu'ils n'ont pas, leur ont pas craché dessus et les ont pas giflés. C'est
non,
autre chose.
Non, mais ils leur ont quand même fait des réflexions assez déplacées, notamment en conférence de presse, et je suis bien placée pour le savoir, parce que ça m'était destiné à l'époque. Et l'autre chose, en fait, c'est que effectivement, cette petite musique est montée pendant toute la campagne. Par ailleurs, c'était une petite musique qui était déjà employée, je parle que pour la droite, par exemple, mais par Nicolas Sarkozy à l'époque. Alors, peut-être pas de façon aussi généralisée, mais enfin, tout de même, c'est ce qu'on entendait déjà pendant toutes les campagnes de Nicolas Sarkozy, notamment celle de 2012, faut bien le dire. Et l'autre question, moi, je peux comprendre, en fait, que les politiques aient un droit critique sur la presse, de la même façon qu'on a un droit critique vis-à-vis d'eux. Ça s'appelle tout simplement la démocratie. Mais en règle générale, quand ils prennent ce type de posture, c'est surtout parce que ils ont pas vraiment, c'est pas qu'on leur pose des questions bêtes, c'est qu'on leur pose des questions qui les embêtent. C'est quand même un petit peu différent.
Alors Nicolas Cassiaf, je l'ai promis, vous allez nous permettre de prendre un petit peu de hauteur, en tout cas de recontextualiser, d'historiciser un peu tout ça. Vous qui connaissez bien l'évolution du journalisme politique sous la Ve République, est-ce que c'est si original, est-ce que c'est si différent ce qu'on a vécu au cours de cette campagne présidentielle jusqu'à aujourd'hui? Je le rappelle, hein, jusqu'à un président de la République qui décide d'annuler, alors c'est peut-être pas pour le plus mal, hein, c'était pas non plus une interview très très intéressante en règle générale, interview traditionnelle du 14 juillet, mais aussi qui, on l'a vu récemment, je veux plus que ce soit que des journalistes politiques qui me suivent en déplacement. Quand je fais un déplacement au Mali, je veux que ce soit un journaliste spécialiste du Mali. Quand je fais un déplacement économique, je veux que ce soit un journaliste économique, etc., etc.
Mmh. Ah non, c'est pas particulièrement neuf. Il suffit de se souvenir des critiques d'un De Gaulle à l'égard de la presse. C'était défini comme ça à l'époque. Et tout au long de sa carrière, il a dû faire 3 interviews à la presse écrite, hein, réservant ses apparitions uniquement à des médias audiovisuels qui, à l'époque, lui permettaient de s'exprimer sans filtre. Mais là, ça a été quand même très fortement exacerbé en raison de la conjoncture politique où chacun avait intérêt à se poser comme étant hors système. Alors le système pouvant être d'un côté l'oligarchie financière contrôlant donc la plupart des médias privés, de l'autre ça pouvait être ces journalistes tous de gauche, droits de l'hommiste, qui donc bien évidemment étaient porteurs d'un discours critique à l'encontre des intérêts des Français ordinaires. Donc de ce point de vue-là, il y a Il n'y a pas véritablement de nouveauté, c'est dans le répertoire politique conventionnel, mais sous des formes vraiment, vraiment exacerbées et dans un contexte où se sont multipliées, par l'intermédiaire notamment des réseaux sociaux et d'Internet, la possibilité de s'affranchir du filtre de la question médiatique.
Mais alors, si ça a été rendu possible aussi, Nicolas Cassiaf, c'est parce que c'est vrai que les journalistes, et notamment les journalistes politiques, souffrent d'un certain déficit de notoriété ces dernières années. Et de confiance aussi, on le voit chaque année, il y a un baromètre de la confiance publié par le journal La Croix, ça ne cesse de dégringoler, peut-être aussi, et je crois que les journalistes eux-mêmes en sont conscients, il y a eu peut-être parfois une certaine dérive du journalisme politique qui préfère aller chercher la petite phrase plutôt qu'aller au fond des dossiers. Est-ce que vous partager également cette analyse?
C'est paradoxal parce que c'est une campagne où il y a une multiplication des formats, je pense notamment à Mediapart qui a imaginé...
Oui, c'est vrai qu'on va être obligé de dire les journalistes assez régulièrement, ouais. Et ça recouvre évidemment des réalités très très différentes.
Parallèlement à ce contexte de très forte critique par rapport aux journalistes politiques notamment, il y a eu dans beaucoup de médias le souci d'inventer de nouvelles manières de rendre compte des campagnes. Il y a eu une mobilisation dans beaucoup de médias, des équipes, des services, société, économie, sans doute plus importante qu'autrefois. Il y a eu l'intervention assez forte des services enquête, investigation, pour...
notamment dans les affaires de François Fillon, de Marine Le Pen.
Mais c'est vrai que la critique se focalise sur les journalistes politiques de façon assez convergente, parce que c'est eux qui couvrent au quotidien le personnel politique, et donc c'est eux qui sont le plus souvent présents, notamment dans les conférences de presse ou lors de leur déplacement. Et il faut bien dire, par exemple, que lors de la conférence de presse organisée par François Fillon, ce fameux mercredi où tout le monde annonçait qu'il allait se retirer et où finalement il se maintient, dans la salle étaient présents beaucoup de journalistes politiques qui se sont rabattus vers un questionnement sur son état d'esprit, comment, où il en était, sur les alliances, qu'est-ce qu'il pensait des défections des derniers jours, plus que sur le fond des affaires dans lesquelles il était mis en cause, alors même qu'il avait énoncé à ce moment-là un certain nombre de contre-vérités.
Nathalie Saint-Cricq.
Pour répondre, il y a deux choses. D'abord, le discrédit des journalistes politiques va, à mon avis, avec le discrédit de la politique qu'on a pu subir ces dernières années. Donc c'est normal, c'est pas justifié forcément, mais c'est assez explicable en tout cas qu'on fasse partie du même lot. À nous d'essayer de trouver des nouvelles formes, c'est d'essayer d'intéresser les gens en faisant du fond, en faisant toutes sortes de choses. Après, sur les petites phrases, c'est un faux problème, les petites phrases, parce que les petites phrases, elles sont émises par les politiques pour maîtriser la com. Alors nous, c'est pas qu'on est des crétins, qu'on les oblige à faire des petites phrases, c'est que eux-mêmes sont des émetteurs d'une sorte de gimmick, d'une sorte de pitch, comme on dit de nos jours, de manière à frapper les esprits. Quand Mélenchon dit qu'ils s'en aillent tous, toutes ces phrases sont des phrases qui sont marketées et qui sont faites pour marquer les gens. Donc dire qu'on est obsédé par les petites phrases, ça me semble être un faux procès. Et puis à côté de ça, si vous voulez, comme ça a été dit, c'est vrai que la tentation avec les réseaux sociaux est extrêmement grande de vouloir communiquer directement sans passer par une médiatisation, c'est-à-dire un médiateur, quelqu'un qui pose des questions. Ils en jouent, ils en usent, ils en abusent. Ils ont peut-être raison, à nous d'essayer de leur imposer régulièrement quand même une espèce de discipline qui fait que ce n'est pas simplement de la com, c'est-à-dire une émission, si vous voulez, directement de l'émetteur au récepteur, qu'il peut y avoir un filtre. Et puis expliquer aussi, quelquefois, il y a un peu de complexité dans les dossiers, que ce n'est pas simplement qu'on dit « Yaka, il faudrait que... » pour que les gens se disent « Ah bah ouais, il a raison » et qu'on introduit ce genre de choses. Mais on va réinventer tout ça. Enfin, je ne suis pas spécialement angoissée.
Vous n'avez pas l'air inquiète, en effet, non. Nathalie Saint-Cricq. Frédéric Barrère, est-ce que vous êtes d'accord? Finalement, les petites phrases sont là, elles sont émises par les hommes politiques pour contrôler leur communication. Enfin, maintenant, ce n'est plus des petites phrases avec le président jupitérien. Ce sont des signes. Il va falloir se mettre à la sémiotique très, très rapidement, parce que ce sont plutôt les symboles qui sont manipulés plutôt que les phrases.
Oui, les symboles et des petits coups de canif.
On l'a vu encore aujourd'hui.
Voilà, moi je comprends qu'ils aient un agenda, des phrases à faire passer, une com à présenter, qu'ils essaient de se servir de nous pour la faire passer. Bon, ok, c'est le jeu. En revanche, non, le président de la République n'a pas à choisir, il peut émettre des souhaits, mais il n'a pas à choisir les journalistes qui vont l'accompagner à tel ou tel endroit. Il peut dire, voilà,
mais on n'a pas accepté. Voilà. Hein.
Personne n'a accepté.
Donc vous avez tous signé.
voilà.
Ça, après, quand je dis tous, au moins, ouais. Mediapart, France Télévisions et Radio France.
Et Radio France, les trois rédactions de Radio France, bien évidemment, on n'a pas accepté. Donc voilà, il faut rappeler des trucs. Bon, il y a peut-être une période de rodage qui est un peu longue, voilà, dans les rapports entre la presse et l'Élysée. J'espère que ça va s'aplanir et avoir une marche plutôt normale. Après, à quoi on a assisté ? On a quand même assisté à un énorme dégagisme. Voilà, tout le monde, tous les politiques, l'ancienne politique, les Français, on a assisté à un dégagisme, à des Français passionnés par la politique tout au long de la campagne. On l'a vu sur les débats de France 2, ils ont été suivis, ces débats. Mais les élections, on n'a jamais aussi peu voté. Donc il y a eu un dégagisme, et sans doute que pour la presse, il va peut-être falloir inventer
un dommage collatéral, un
renouvellisme. Voilà.
Hélène Salvi,
façon d'en parler.
Mediapart, qui a couvert évidemment de manière assez fine cette élection, enfin ces élections de devrait-on dire, a notamment proposé des formats vidéo, des rencontres. Il y en a eu avec Emmanuel Macron, il y en a eu avec des candidats à la primaire de la Belle Alliance Populaire, j'allais dire du Parti Socialiste. C'était une occasion pour vous, non pas de leur faire rencontrer simplement des journalistes politiques, mais défiler le questionnement de tous les journalistes de la rédaction, société, économie. Donc finalement, vous avez un peu anticipé le désir d'Emmanuel Macron. C'est une nécessité aujourd'hui, de ne pas réserver la politique aux journalistes politiques.
Oui, mais enfin, je crois que de toute manière, c'est assez transversal dans toutes les rédactions. Quelqu'un qui fait de l'économie fait de la politique. Quelqu'un qui fait des sujets de société fait de la politique. La politique, à mon sens, c'est partout.
Oui, mais le journaliste politique fait de la politique.
Oui, mais je trouve que réduire le journaliste politique justement à juste la politique et la petite phrase, déjà, c'est un petit peu vexant, parce que c'est quand même pas que ça. Et par ailleurs, le journaliste politique, enfin moi je sais pas, je pense qu'on est tous dans le même cas. À titre personnel, je m'intéresse en tant que journaliste à beaucoup de sujets, et il me semble pas que mon métier soit simplement d'accumuler les petites phrases qu'on veut bien me laisser. Bien au contraire. Mais effectivement, on peut imaginer, mais enfin, il me semble que ça se fait quand même partout. Après, c'est une histoire de questionnement, c'est-à-dire, c'est pas tant une histoire de personne, c'est une histoire de questionnement. Moi, je sais par exemple que les deux entretiens qui étaient très longs, et c'est important ça aussi quand même, le format. Nous, ce qu'on a proposé pendant toute cette campagne aux candidats à Mediapart, et tous ne l'ont pas accepté, hein. Notamment
loin
François Fillon.
Et Jean-Luc Mélenchon non plus.
Et Marine Le Pen, c'est un autre sujet, parce que nous avons choisi de ne pas l'inviter. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ils ont du temps. Donc, en règle générale, ils sont pas coupés. On n'est pas... avoir Emmanuel Macron pendant 2h30, ça laisse quand même, pour n'importe quel journal, j'imagine, le temps d'aller au fond des choses, de faire un vrai questionnement sur tout un tas de sujets.
Ce qui pose évidemment la question des formats. Je le disais tout à l'heure, on va parler du journalisme ou même du journalisme politique. Il y a évidemment des journalismes politiques. L'évolution des formats est due à l'évolution des médias, l'apparition des nouveaux médias qui permet aussi, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon de passer par une chaîne YouTube pour s'adresser directement à ses électeurs ou à d'autres d'ailleurs. Ou alors là, très récemment, La République En Marche qui annonce qu'il va se constituer presque en média, aller là où les autres ne vont pas, aller plus près du terrain, faire remonter ce que ne feraient pas les journalistes, à savoir un travail de terrain. Nicolas Cassiaf, est-ce que c'est aussi là une réaction à ce qu'on a pu constater, une autre forme d'évolution avec les chaînes d'info continue, une forme d'éditorialisation, je ne sais pas si c'est très, très joli comme terme, ni très français, mais voilà, c'est-à-dire que les journalistes politiques, c'est aussi beaucoup des éditorialistes qui s'expriment, qui donnent leur avis, et peut-être qui vont moins au fond des choses, vont moins dans l'enquête et dans l'analyse profonde.
Il faut distinguer les journalistes politiques de terrain, c'est-à-dire ceux qui suivent au quotidien les institutions, les partis, enfin en tout cas le personnel politique, plus ou moins lié d'ailleurs selon les rédactions, avec des traitements des enjeux, des questions de fond, et les éditorialistes. Alors il s'avère que beaucoup d'éditorialistes sont d'anciens journalistes politiques, mais on a quand même affaire à deux populations différentes. Et la question qui se pose, c'est la question de la spécialisation, de l'accès au réel, du type de sources. Et c'est vrai que plus on est généraliste, plus on est amené, compte tenu de ses positions assez élevées dans les rédactions, à fréquenter principalement les hautes sphères administratives, politiques, plus on va avoir comme perspective ce que ces leaders, ces responsables relaient, voir à travers leurs yeux. Et c'est sans doute ça qui nourrit assez souvent hein, la critique d'une sphère médiatique par l'intermédiaire de ces éditorialistes coupés. Et quand on entend effectivement un Christophe Barbier en avril dans une interview au Journal du Dimanche qui explique que l'éditorialiste n'a pas à faire de terrain parce que ça, désolé pour la formule n'est peut-être pas exacte, mais ça polluerait, si vous voulez, sa pensée. Effectivement, là, d'une certaine façon, il vient défendre une posture qui peut être problématique.
Alors ce que vous dites là, Nicolas Cassieff, c'est un vieux poncif des problèmes du journalisme politique en France, dont on dit qu'il serait trop proche. Et d'ailleurs, on l'a entendu, hein, Charline Vonnenacker, dans le petit son au début, faire ce reproche. Est-ce que les journalistes politiques sont trop proches des hommes et des femmes politiques? Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres, Nathalie Saint-Cricq?
Moi, je suis pas totalement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas, parce que le terrain, on en a tous fait, on en fait encore. C'est-à-dire que on n'est pas tous les deux jours dans les meetings, mais même... moi, j'ai continué à y aller de temps en temps, et mes collègues aussi. Donc, il y a deux choses différentes. C'est se rendre compte un petit peu de ce qui se passe, donc aller voir les gens. Et quand on est obligé de faire des éditos, ne pas non plus être sans arrêt dans l'explication de tout. Un édito, on juge. Alors, on n'est peut-être pas habilité à juger, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, avec la concurrence Internet et tout, si on disait simplement la voix de son maître et qu'on disait Macron est génial ou Mélenchon est un dieu ou je sais pas quoi, il y a un moment donné où ça n'irait pas. Donc, quand on veut éditorialiser un peu, il faut avoir un regard un peu frais. Je dis pas comme Christophe Barbier qu'il faut être dans la stratosphère, mais il faut quand même pas leur demander. Je vous donne un exemple avec Emmanuel Macron. Je ne téléphone pas à l'Élysée pour qu'on me dise Emmanuel Macron a voulu faire ça, il voulait dire ça, parce que j'ai pas besoin d'avoir cette espèce que comme Gaspard Ganzer nous faisait pour nous donner l'explication.
L'ancien conseiller communication
exactement avec François Hollande, parce que je considère au contraire que si on nous donne cette espèce de prêt-à-penser, ça va nous influencer. Alors, je pense qu'on doit être entre les deux, un peu dans le terrain, même beaucoup de temps en temps pour savoir ce qui se passe. Suffisamment en retrait pour pouvoir juger et pas être tellement maqué avec eux pour parler vulgairement en se disant « Mon Dieu, ils vont me téléphoner après, ils vont pas être contents de moi, c'est terrible. » Donc je crois qu'on essaie de trouver cette distance-là.
Juste avant de vous laisser répondre Nicolas Cassieff, mais Frédéric Barra, quelle est la relation justement, qu'est-ce que vous dites vous à vos éditorialistes, je sais pas, à Frédéric Saïs par exemple, qui fait un éditorial tous les matins, un billet politique tous les matins dans la matinale de France Culture, est-ce que vous estimez qu'il faut garder cette distance ou il faut être proche des hommes et des femmes politiques?
Je lui dis qu'il est libre et qu'il fait, ça très bien, Frédéric Saïs. Non, c'est un genre journalistique aussi, être éditorialiste, je suis tout à fait d'accord. On a aussi, on a besoin de se décoller le nez du guidon et puis d'expliquer et puis de donner son avis et puis voilà, c'est un genre journalistique.
Mais est-ce
aussi,
que c'est pas un genre qui a phagocyté un peu le reste ces derniers temps?
Mais après, j'entends ce que dit Mélenchon. Pour lui, il considère que les journalistes font de la politique et que c'est pour ça que lui veut me créer son média qui était sur YouTube, etc., etc. Après, le problème, c'est que moi, je considère que ce qu'il fait, c'est de la propagande ou de la communication, comme ce que veut mettre en place. Je remets tout dans l'ordre, vous voyez. Donc, l'éditorial, c'est la liberté du journaliste.
Hélène Salvi.
Je suis assez d'accord avec le fait que l'éditorial, c'est un genre journalistique en soi, donc on va pas ni cracher dessus ni le bannir complètement. En revanche, c'est peut-être sur l'équilibre que les choses se jouent. C'est-à-dire que effectivement, quand on est biberonné aux éditoriaux et que on passe sa journée à regarder, je vais tous les citer parce que enfin les chaînes d'infos en continu. De temps en temps, on peut être quand on fait du terrain précisément. Moi, je me suis pas mal rendu compte pendant la campagne parce que souvent je faisais des respirations et je parle même pas des meetings, mais je faisais des respirations en allant voir juste des militants qui tractaient avec pour François Fillon, etc. Et le soir, je rentrais chez moi, je mettais une chaîne d'infos en continu et puis j'entendais des grands penseurs m'expliquer ce qu'était la campagne de François Fillon et ça me semblait quand même très éloigné de ce que je venais de vivre dans la journée. Donc en fait, c'est la surconsommation qui pose toujours un problème. C'est pas la consommation. C'est juste de simplement de comment dire, de varier un peu les plaisirs, de lire et d'écouter des éditoriaux, c'est très bien, mais il faut faire aussi autre chose. Voilà.
La porte-parole de La République En Marche, annonçant justement la création de ce nouveau média, dit « C'est à nous de monter sur des thématiques, nous avons un champ d'expression qui touche la vie des gens, les syndicats, les gouvernements vont s'écharper, or c'est loin de la vie des gens ». Nous montrerons cette dynamique de l'engagement citoyen, Nicolas Cassiaf. Comment entendre ça, la vie des gens? Donc les journalistes n'en parlent pas, et encore moins les journalistes politiques.
Déjà, la vie des gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Lesquels? Les gens de Paris, les gens de province.
Non, on comprend bien que ce n'est pas les gens de Paris en général.
Les ouvriers, les employés, les cadres. Bon, donc leur quotidien respectif est déjà tellement différent que cette expression toute faite...
Non, j'entends bien, mais spontanément pas confiance. À vrai dire, ça rejoint quand même, ça rejoint autre chose. Il y a eu, il y a quelques années, par exemple, un manifeste publié par la revue 21. Il y a ce week-end, un festival du journalisme vivant qui va être lancé.
Morts,
oui. vous êtes invité, je crois, Nathalie Saint-Cain. voilà, où va être lancé un nouvel hebdomadaire, justement, par l'équipe de la revue 21, qui fait ce constat, qui dit le journaliste politique, qui est embedded, comme on dit, qui suit les candidats ou qui suit les hommes politiques, qui va aux conférences de presse, ben ça c'est mort, on n'en veut plus, il faut faire du reportage, il faut se séparer, couper ce membre qui nous empêche de véritablement regarder et penser les choses telles qu'elles sont.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut le faire de plein de façons différentes, et pour revenir sur la discussion qu'on avait tout à l'heure quand je parlais du terrain, prenons l'exemple par exemple de la manière dont on peut rendre compte des débats sur la nouvelle loi de travail et se positionner journalistiquement sur cette loi de travail. Il va de soi que selon le service auquel on appartient, selon ses propres spécialisations, on pourra avoir un regard très différent. Et de ce point de vue-là, le terrain, c'est effectivement d'aller mesurer journalistiquement parlant, avec un regard journalistique, l'impact des différentes mesures sur le quotidien.
Et vous diriez qu'aujourd'hui on le fait plus, on le fait moins,
je suis pas du tout en train de dire ça, mais j'opposais là effectivement ce regard d'un journaliste de terrain par rapport à des formes d'éditorialisation qui reprennent d'une certaine façon les éléments de langage, qu'ils soient celui de la majorité ou ceux de l'opposition, sans avoir nécessairement soit le regard de personnes ordinaires touchées par la mesure, soit des compétences économiques qui permettent de battre en brèche. Et ça renvoie à la question de l'interview. C'est vrai que l'initiative de Mediapart était intéressante parce que chaque journaliste pouvait arriver avec son champ d'expertise et pouvoir aller au-delà des affirmations, pouvoir les contester avec un vrai background.
Frédéric Barrère.
Oui, mais là, ce que vous disiez, Raphaël, ils font semblant de découvrir le journalisme, nos amis politiques. Bien sûr que le reportage, c'est la base du métier, et que sans reportage, on fait pas de journaux, on fait pas de télé, on fait rien. Maintenant, sur le journaliste politique, embedded, paraît-il, je suis pas d'accord. Moi, le journaliste politique, il suit un politique au rythme décidé par lui, sa direction et sa rédaction, et il ramène de l'information. C'est un peu notre métier, quand même, de ramener de l'information. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est est-ce que la parole politique est très intéressante, toujours? Est-ce qu'elle ne serait pas un peu creuse? C'est peut-être ça.
Hélène Salvi, je veux voir.
Il faut demander.
Non, mais c'est assez juste parce qu'on reproche toujours aux journalistes politiques de chercher la petite phrase. Ouais. Et on revient à ce que Nathalie disait tout à l'heure. Moi, je me suis trouvée X fois dans des situations où justement je ne voulais pas faire de la petite phrase, dans des réunions, notamment politiques, ne serait-ce que l'année dernière à la Baule, la réunion des Républicains, où j'essayais de faire une espèce de vision des candidats de la primaire sur de quelle lignée politique, de quelle tradition de la droite ils s'inscrivaient. Et je vous assure que pendant deux jours, on m'a juste rayonné. Les politiques, en me disant non, c'est bien plus intéressant de savoir que Truc a mangé ça hier soir et que machin préfère le boudin. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a un moment, on peut pas. Je pense qu'on est tous co-responsables de quelque chose. Si eux ne font pas l'effort et que nous on fait pas l'effort, effectivement, on va tous être victimes de cette crise de confiance. Ça me semble assez logique.
Nathalie Saint-Cricq, on paye là la mainmise des communicants, de la communication. On en parle beaucoup aussi. Il y a eu sur la revue
revue Les Jours, une longue série sur la question qui est assez intéressante. La communication verrouillée, bon, en même temps, c'est aussi le rôle des journalistes de contourner cette communication.
Je ne vais pas faire le rôle de l'optimiste de service systématiquement, mais les embedded, ça veut dire qu'on vous donne des facilités, que vous les avez au téléphone et que vous savez à quelle heure est le meeting. Après, on n'est pas là pour être les perroquets des politiques. Et d'ailleurs, une fois encore, la concurrence, le fait qu'il y ait des Mediapart, qu'il y ait des Paris Match, qu'il y ait des France Info, qu'il y ait des France Inter, qu'il y ait des France 2, qu'il y ait quand même sur les réseaux sociaux des tonnes de trucs, ça nous assure globalement que le journaliste qui arriverait en faisant la voix de son maître, ça ne passerait pas. Les gens ne sont pas des imbéciles et ce n'est pas parce qu'on leur balance 15 reportages, même à la télé, sur des choses comme ça qu'ils vont le gober. Deuxièmement, il y a eu une multiplication des formats pendant la campagne, à tel point qu'à la fin, les gens disaient « on vous en supplie, plus de débat » parce qu'on s'est quand même tapé un nombre incalculable d'émissions sur tous les médias et tout ça. Donc, je pense que la démocratie y a plutôt gagné. Alors, dernier point, on va vivre une époque où c'est la communication. Il y a la communication d'un côté et il y a l'information. À nous de décrypter, et c'est dans ce sens que je crois que les éditorialistes peuvent être intéressants. C'est-à-dire que quand on voit la cérémonie, par exemple, aujourd'hui avec Emmanuel Macron, on peut essayer de décrypter toute la dynamique et toute la démarche corporelle avec Trump en disant est-ce qu'ils en font pas un peu trop. Donc c'est là aussi qu'on peut servir. C'est-à-dire que nous, moi je dis ça parce que je travaille à la télé et que la télé c'est des images, que nous balance pas les images à la tête des gens comme si c'était de bien belles images, mais qu'on leur dise voilà, à ce moment-là, ça veut dire ça, ça veut dire ça.
Je vous donne la parole tout de suite, Hélène Salvé, mais puisque Nathalie Sincré, vous parlez du débat et que vous avez été présente lors du débat de l'entre-deux-tours, vous voyez, j'ai changé le terme employé. Non, mais c'est vrai que il a été, c'est un débat qui a beaucoup été commenté, notamment le rôle que vous avez joué avec Christophe Jacquivisine qui vous accompagnait ce jour-là. Est-ce que, selon vous, c'est le format même qui ne va plus, ce débat qui est très verrouillé? Qu'est-ce qui s'est passé en quelque sorte? Qu'on ait cette impression, outre la violence évidemment de l'affrontement, qu'on ait cette impression que voilà, ce n'était pas un exercice journalistique.
Il y a deux choses. Il y a d'abord, c'est un débat qui est extrêmement codifié. Il est très proche de l'élection. Ça a l'air d'être un poncif, mais étant très proche, on ne peut pas se permettre de donner l'impression à un quart de dixième de seconde de favoriser l'un ou l'autre. Il est encadré par le CSA. Alors, on peut trouver ça bien ou mal, mais l'ordre des questions, les thèmes, alors ça ne veut pas dire qu'on leur a envoyé nos questions. Ça veut simplement dire qu'ils s'étaient mis d'accord entre eux pour qu'on parle d'abord de ça, alors qu'ils ne l'ont absolument pas respecté. Il est évident qu'ils voulaient parler d'écologie soi-disant, mais qu'ils se sont débrouillés pour déborder tellement sur d'autres choses. Et ensuite, ils ont eu une pratique tous les deux, qui était de faire un face-à-face en se fichant éperdument de ce qu'il y avait autour. Donc vous pouvez crier sans interruption, taper sur la table en disant « s'il vous plaît, on va passer à la suite ». Ils avaient décidé, Emmanuel Macron, parce qu'il pensait que ce serait que s'il était poli, policé, qu'il se tenait comme un politique classique, qu'il allait en faire les frais. Donc quand il avait anticipé cette forme d'agression ou d'agressivité ou de méthode de Marine Le Pen, et il s'est calqué d'une certaine manière sur elle, et ce qui a donné ce débat qui, au finish, a quand même permis de montrer la personnalité et de l'un et de l'autre.
Mais c'est ça qui au final est assez paradoxal, Nicolas Cassiaf. Ce débat, je donne la parole tout de suite, pardon, Hélène Salvi, mais ce débat, à la fois on a dit, c'était un débat horrible, irregardable, ils étaient violents, les journalistes n'ont pas pu intervenir, et en même temps on dit que c'est le seul débat à peu près de toute l'histoire de la Ve République, le débat télévisé en tout cas, de toute façon il n'y avait que pendant la Ve République, qui a eu un impact sur le second tour. Alors est-ce que ça veut dire que finalement c'est un format qui a encore sa validité aujourd'hui?
Encore sa validité, je ne peux pas y répondre. Ça a eu un impact, effectivement, parce que c'est une des seules situations dans laquelle l'un ou l'une des candidats véritablement, à un moment donné, été au bout de ses arguments, s'est emporté et a pu nourrir tous les argumentaires consistant à dire, véritablement, elle a montré son vrai visage. Après, les intentions de vote d'entre-deux-tours ont assez peu bougé, donc mesurer l'impact, c'est de ce point de vue-là, c'est assez compliqué. Toujours est-il que dans un contexte électoral, ce sera compliqué d'imaginer un format radicalement nouveau, parce qu'ils ont besoin, à un moment donné, d'un juge de paix pour pouvoir distribuer la parole, les questionner.
Le pire des formats, à l'exception de tous les autres. Voilà. Hélène Salvi.
Oui, pardon. En fait, j'anticipais par rapport à cette campagne et aux formes de communication et d'information qu'on a vécues là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui les choses s'annoncent. Et il me semble pas qu'elles s'annoncent très très bien, pour tout dire, parce que on a effectivement un président de la République qui soigne sa communication comme jamais. Et on a quand même un accès pour le moins réduit, nous, en tant que journalistes, et je parle même pas que des journalistes politiques, un accès réduit, je veux dire, en l'espace de 2 mois, je crois qu'il a donné une interview ou deux
à des journaux... Une interview, je crois, il y a des journaux étrangers.
Voilà.
Enfin, à 8 journaux européens.
Voilà. Et bon, on va pouvoir répéter ad vitam aeternam que c'est la présidence jupitérienne, mais enfin, ça va être un peu court sur 5 ans. Moi, la question que je me pose quand même, c'est à quel moment Emmanuel Macron va souffrir de devoir rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui sous une présidence avec une majorité absolue au Parlement, où on entend un petit peu l'opposition via la voix des députés de la France insoumise, mais bon, enfin, là, dans les débats sur ordonnance, c'est quand même assez réduit. On a quand même, on l'a vu ces derniers temps, un président qui convoque le congrès de Versailles, qui est quand même très présent, avec des ministres assez effacés, et là-dedans, la presse, qui est quand même un des principaux contre-pouvoirs, n'a pas l'occasion de se faire l'écho de la société, c'est-à-dire de lui poser des questions qui pourraient le gêner, qui pourraient lui opposer des contradictions.
Je suis d'accord avec Hélène. Je vais très vite. On est confronté à un Mélenchon et la France Insoumise qui fait un happening par jour. Donc nous, on traite ou on ne traite pas, en donnant l'impression que c'est l'opposition, c'est eux et personne. On est confronté à une droite, à des droites. Quand on veut faire un son de quelqu'un pour poser une question, pour réagir, on se demande qui on va parler. On se demande si on va aller chercher un Rafarin, bon, il a arrêté. Voilà. Et on est confronté, effectivement, à Emmanuel Macron qui nous fait de la communication prémâchée. Moi, je ne pense pas que ça va pouvoir tenir sans qu'il y ait un moment donné. Alors, on n'est pas en train de hurler sur la prochaine interview, mais je ne vois pas comment, à la rentrée, il n'y ait pas un moment, que ce soit une conférence de presse, un format télé, peu importe, je ne pense pas que ça puisse tenir. Je veux dire, il n'y a aucun pays. Autrement, les gens commenceront à s'en rendre compte et puis il y aura des explications. Donc ça va s'arranger. C'est toujours mon côté...
Par ailleurs, ça ne va pas l'aider, en fait. C'est ça. C'est, politiquement,
non,
ça ne
peut pas
l'aider.
Non, parce que les gens ne sont pas idiots. Ils ont bien compris qu'on peut leur fournir des images sans arrêt. Il y a un moment donné où ils ont envie d'avoir des explications.
Non, c'est vrai qu'après, François Hollande, encore une fois, qui avait un contact, un accès direct avec les journalistes, il faut peut-être aussi prendre un peu de distance. Nicolas Cassiaf, comment vous voyez-vous cette présidence qui s'annonce, la relation entre le président de la République et les journalistes?
Ce qui est intéressant et préoccupant, c'est que la situation est quand même très analogue à la période 58-62, au moment de l'installation du général de Gaulle au pouvoir, du changement de République, mais sur plein d'aspects. C'est-à-dire qu'à l'époque, les journalistes de l'époque que j'avais rencontrés m'expliquaient que pour eux, c'était la panique, puisque toute la vieille garde parlementaire qui constituaient leurs sources habituelles, soudainement ne parlaient plus, étaient sortis du jeu. On se retrouvait avec une énorme majorité particulièrement disciplinée, parce que la moindre indiscipline était sanctionnée par le parti et ils étaient dégagés. Et là, c'est ce qu'on retrouve actuellement au Parlement, donc ce qui conduit à devoir multiplier des reportages sur le mode « vie ma vie » de députés, parce que de fait, la portée même de la parole de ces parlementaires qui ne sont pas aux prises avec la décision est vaine. Et la décision se prend dans des cabinets qui, eux, sont opaques et fermés.
Eh bien, voilà, tout qui doit se réinventer, à la fois une recomposition politique, peut-être une recomposition journalistique, je ne sais pas, on va suivre tout ça. Merci en tout cas à tous les quatre, Frédéric Barrère, Nathalie Saint-Cricq, Hélène Salvi et Nicolas Cassiaf, d'être venus nous éclairer sur ce dur métier de journaliste aujourd'hui. Enfin, tout va bien, hein. Il y a quand même de la matière. L'émission a été préparée ce soir par Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Monti. À la réalisation, c'était Alors Chanel. Et à la prise de son, Jean Frédérix.